Bonjour à toutes et à tous, c'est Julie, vous êtes bien dans l'émission 3 en 1 sur Canal B 94 FM.
C'est beau, c'est agréable, moi c'est ma balade phare.
Quant à vous aujourd'hui, votre périple en Bretagne, c'est une grande région française, c'est une région qui comporte combien de départements, monsieur ?
Il y a les villages.
On n'a pas de déboire.
L'agriculture est en train de crever. Sincèrement, toute production confondue, toute filière.
La rue répond.
De venir de Paris, de Lyon, de Bordeaux, tout le monde sait qu'à Rennes, il se passe quelque chose.
Bienvenue dans 3 en 1, l'émission d'actualité locale sur Canal B. Il est midi 15, nous sommes mercredi 29 avril ou jeudi 30 si vous nous écoutez en rediff. Si c'est le cas, bonne matinée à vous. Au sommaire de cette édition, Manon, tu t'es entretenue avec Lydie Pierret, coordinatrice de l'EduLab Pasteur.
Exactement, et elle m'a présenté ce lieu d'expérimentation et de création numérique.
Et en fin d'émission, vous entendrez la suite du reportage sur l'agriculture urbaine. Pour rappel, le 22 avril, dans le premier épisode, Valentine, tu t'es entretenue avec Hélène Brett, fondatrice de l'association L'École Vert Rennes.
Le week-end dernier se tenaient les 48 heures de l'agriculture urbaine, alors l'occasion pour moi de questionner cette filière. Je me suis donc rendue à la ferme du Pré à Chantepie où j'ai rencontré Hélène Brett, fondatrice de l'association L'École Vert. Dans le premier épisode diffusé la semaine dernière, nous répondions à la question suivante: l'agriculture urbaine peut-elle nourrir les villes? Et dans la deuxième partie diffusée tout à l'heure, on l'éclairera sur les enjeux liés à l'agriculture urbaine.
Et ce sera donc un reportage à retrouver aux alentours de midi 40. En attendant, Manon, tu restes en plateau et tu enfiles ton sifflet et ton maillot d'arbitre. Ce week-end, les clubs de foot de première et deuxième division ont milité à leur façon contre les discriminations.
Et oui, et je vais distribuer quelques cartons aujourd'hui, car comme tu l'as dit à l'instant, ce week-end, sur les terrains de Ligue 1 et de Ligue 2, une initiative a été mise en place sur les maillots des joueurs, des prénoms, et non pas les leurs, mais ceux de victimes de discrimination, 34 au total, Myriam, Moussa ou encore Pierre. L'action a été menée par trois associations partenaires de la LFP, la Ligue de football professionnel, comme Eurgame 2 qui lutte contre le sexisme à l'encontre des supportrices, Foot Ensemble qui agit contre l'homophobie dans le football et la LICRA, Ligue internationale contre le racisme et l'antisémitisme. Ensemble, ces assos ont mis en lumière des témoignages de victimes.
Et à qui veux-tu distribuer ces fameux cartons ?
Eh bien, il faut savoir que depuis 2019, cette journée de lutte contre les discriminations était en fait une journée de lutte contre l'homophobie. Mais malheureusement, dans un milieu aussi discriminatoire que le football, la lutte n'a pas duré. Déjà, en 2024, Mohamed Camara, alors joueur de l'AS Monaco, avait masqué le logo contre l'homophobie floqué sur son maillot lors de la journée de lutte contre l'homophobie. Un an plus tard, en 2025, lors de cette même journée, c'est Mostafa Mohamed, joueur du FC Nantes, qui avait tout simplement refusé de participer au match. Même s'il y a eu des sanctions à l'encontre de ces deux joueurs, on n'oublie pas ceux qui se sont cachés lors des photos d'avant-match avec la banderole « homo ou hétéro, on porte tous le même maillot » et les autres joueurs qui ont scotché le logo sans être sanctionnés. 1-0 pour les homophobes.
Finalement, cette année 2026 officialise une défaite de la lutte contre l'homophobie puisque la LFP a abandonné cette journée de lutte et ses maillots aux couleurs arc-en-ciel.
Oui, c'est désormais une journée contre les discriminations, sexisme, homophobie, racisme et antisémitisme. Alors déjà, on ne retrouve pas ici toutes les discriminations, mais c'est surtout assez désolant de voir la LFP littéralement abandonner cette journée de lutte car des joueurs ne veulent pas y participer. Autre carton jaune, si la lutte contre certaines discriminations est toujours présente, qu'en est-il de la sensibilisation auprès des joueurs ? La communication réalisée par les associations ce week-end était vraiment superbe. On peut aussi souligner la mise en avant de la chaîne Ligue 1+, qui a proposé les matchs en clair exceptionnellement pour le week-end. Ils ont aussi su mettre en avant l'initiative des associations en leur donnant la parole en plateau, tout comme beIN Sport, le diffuseur de la Ligue 2. Mais au final, est-ce que les joueurs connaissaient vraiment les histoires des personnes dont ils avaient le prénom inscrit dans le dos ? J'en suis pas sûre. We'll be right back.
just can't get enough.
De Miss Kittin en collaboration avec The Hacker sur Canal B. 25 ans après sa sortie, ce classique de l'électro-clash ne prend pas une ride et continue à nous faire danser dans une frénésie intemporelle. Mais maintenant, retour en plateau avec Lydie Pierret et Manon. Ensemble, elles parlent d'expérimentation et des outils numériques.
Aujourd'hui, les écrans font partie intégrante du quotidien des enfants, parfois dès le plus jeune âge. Selon une étude nationale sur le bien-être des enfants menée en 2022, la quasi-totalité des enfants de 3 à 11 ans passaient du temps régulièrement devant les écrans et ce temps augmentait avec l'âge, passant de 1h22 par jour en moyenne chez les enfants de 3-5 ans à 2h33 chez ceux de 9-11 ans. Mais utiliser un outil numérique, est-ce vraiment savoir s'en servir? Et surtout, comment apprendre le numérique en expérimentant? À Rennes, l'EduLab Pasteur propose justement d'apprendre le numérique autrement, en expérimentant et en créant. On en parle aujourd'hui avec Lydie Pierret, coordinatrice du lieu. Bonjour.
Bonjour.
Alors pour commencer, est-ce que vous pouvez tout simplement nous présenter ce qu'est l'EduLab Pasteur?
Alors l'EduLab, c'est un tiers-lieu éducatif alors qui est municipal parce qu'il est rattaché à la ville de Rennes, mais qui est dédié aux usages du numérique et culture du numérique.
Quel public vient à l'EduLab Pasteur?
Alors on a plusieurs types de publics. Alors c'est vrai que comme on est rattaché à la direction éducation enfance, on a naturellement des publics des écoles et du périscolaire qui viennent facilement. Mais on est ouvert à toutes et tous, donc rennais, rennaises, métropolitains, métropolitaines. Et du coup, c'est ça aussi qui est intéressant, parce qu'on est un Fab Lab ou Lab Fab en français. Et donc l'idée des Lab Fab, c'est justement de croiser les publics et de toucher un peu tous les publics. Et étant tiers-lieu, donc normalement, on est censé accueillir tous en fonction des besoins. Donc on va faire croiser sur nos temps d'ouverture publique, par exemple des mercredis et samedis, des familles qui vont venir faire de la robotique, et puis des étudiants qui vont, ou des artistes qui vont venir faire de la broderie. Voilà, donc on va vraiment avoir des makers qui vont venir faire d'impression 3D. Voilà, on a vraiment des publics très différents, et c'est justement ça qui est intéressant.
Comment ça se passe au niveau de l'organisation de l'EduLab? Est-ce que c'est sous forme d'atelier ou est-ce qu'on peut venir seul pour une chose spécifique par exemple?
Alors du coup on a deux façons de venir à l'EduLab. Soit justement on réserve l'espace, mais il y a même trois. C'est-à-dire que nous on peut mettre à disposition le lieu des équipements pour ceux qui maîtrisent le sujet, puis qu'on a l'habitude de travailler avec nous, donc on peut même mettre à disposition en soirée. On a des podcasts régulièrement de gens qui viennent en soirée, on leur laisse les clés. Sinon, on peut venir tout simplement les mercredis, samedi après-midi, et puis donc là, on doit réserver sur certains équipements tels que la sérigraphie numérique ou l'impression 3D, parce que c'est un peu complexe, et puis ça prend du temps, et c'est très demandé. Mais sinon, on peut venir voilà, sans avoir réservé. Et puis sinon, tout au long de la semaine, du mardi au vendredi, on reçoit des groupes sur réservation. Et là, on va avoir... Nous, on ne fait pas vraiment d'atelier clé en main, à part nos initiations qu'on propose. Sinon, c'est vraiment co-construit avec ce qu'ont envie de faire les enseignants, les associations, les maisons de quartier, qui souvent viennent avec une envie. Et puis, s'ils n'ont pas d'envie, ben, on réfléchit, on visite le lieu et puis on voit ce qui leur parle et ce qui leur fait plaisir. Et en général, on part de ça et on co-construit ensemble le projet.
Et vous parlez justement des enseignants. Est-ce que c'est une obligation, entre guillemets, de la part des écoles de venir, par exemple, une fois par an ou de temps en temps? Ou est-ce qu'il y a un contrat, ou est-ce que c'est vraiment à la volonté d'une école ou d'un enseignant de venir?
Non, alors c'est vraiment sur la base du volontariat, de l'envie. On essaye de travailler aussi avec l'éducation nationale et les conseillers pédagogiques pour voir aussi les besoins aussi des enseignants et aussi leur proposer des choses qui leur correspondent. Mais très souvent, c'est plutôt des enseignants qui viennent parce qu'un collègue a monté une action, ils ont trouvé ça chouette. Et puis, ils viennent tester, voir, et c'est comme ça qu'on fonctionne.
Et justement, les enseignants et enseignantes qui viennent, est-ce que ce sont des personnes qui enseignent autour du numérique, ou est-ce que vous pouvez voir justement des profs d'histoire ou de français, par exemple?
C'est même la plupart du temps des profs qui n'ont pas travaillent pas forcément sur le sujet. Je pense à une prof de SVT, de Zola, qui est venue travailler sur le son dans le cadre de l'enseignement scientifique et qui a fait un podcast sur le bien commun, qui est l'hôtel Pasteur, ou des professeurs d'art plastique, ou des professeurs de mathématiques qui vont venir utiliser l'espace et voire même faire le projet ensemble. On a déjà eu des profs de collège qui se mettent ensemble pour venir. C'est plus facile pour eux pour trouver des heures pour se déplacer.
Est-ce que dans les activités, il y a des âges minimum et maximum, ou alors est-ce qu'on mélange à la fois des enfants de 8 ans et des adolescents de 14-15 ans?
Alors quand on a des centres de loisirs, on a des panels d'enfants, enfin des âges très différents. En fait, c'est les mercredis après-midi et les vacances. Sinon, si c'est l'école, évidemment, on va partir de la classe. Mais sur un même après-midi, par exemple, en Open Lab, on peut avoir en effet des âges très différents. Bon, c'est vrai qu'on touche moins facilement les ados, parce qu'ils viennent encore pas totalement... Enfin, ils viennent un peu pour certains, mais il faut vraiment qu'ils soient venus par le biais... on a beaucoup d'enfants, par exemple, qui viennent d'IME, et de jeunes qui viennent en autonomie, d'ados, qui viennent en autonomie. Mais sinon assez peu autrement. Voilà. Et du coup, sur les âges différents, c'est vrai qu'après, nous, on aime croiser. Je pense à un projet d'une maison de quartier qui était venu faire un podcast. Il se trouve qu'ils ont rencontré dans le lieu, à l'hôtel Pasteur, il y a beaucoup de personnes qui viennent faire à manger le midi, et notamment parce qu'ils n'ont pas de logement. Ils étaient venus toute la semaine pendant le cadre de vacances scolaires, et ça leur a permis de rencontrer d'autres personnes. Donc, et en même temps, on avait des enfants de centre de loisirs, et finalement, tout ce petit monde-là s'est un peu mélangé, et ça a créé du lien. Alors, ce n'était pas que autour du numérique, mais ça a aussi permis de créer du lien.
L'objectif, c'est d'expérimenter le numérique, c'est d'apprendre le numérique, c'est le lien social. En fait, il y a l'air d'avoir beaucoup d'objectifs derrière et de la Pasteur.
Exactement. Alors le premier, évidemment, c'est de découvrir le numérique, de s'approprier le numérique pour pouvoir le comprendre et éventuellement peut-être faire un autre monde numérique après. C'est un peu ça l'idée quand même. Et c'est de se dire, aujourd'hui, on ne sait pas ce qu'il y a derrière nos petits doudous que sont les smartphones. On va essayer d'inciter les enfants à bricoler. J'espère pas démonter les portables de leurs parents, mais en tout cas, aller chercher ce qu'il y a derrière l'écran et comment ça fonctionne. Ça, c'est vraiment l'objectif premier. Et après, c'est vrai que nous, on est au cœur un peu de culture d'éduc-pop, des communs, puisqu'on travaille dans un tiers-lieu, et puis aussi de la culture maker, qui est vraiment sur comment on fait ensemble, en fait. Parce qu'on apprend mieux ensemble, on apprend mieux les uns des autres, et avec une logique vraiment de savoir vraiment... ce qu'on dit horizontal, c'est-à-dire que tous les savoirs se valent et se complètent. Quoi.
Ma soeur remplit, c'est mon seul calmant. Je bois la poisson, je renverse pour les morts. Je me couche à l'heure où les oiseaux chantent. J'aime quand ça bat, c'est le médicament. Faut qu'on ralentisse. Faut qu'on ralentisse. Faut qu'on ralentisse. Faut qu'on
poster. Je repense à la fée, je repense à la sorcière dans le fairy tale. J'ai le seum dans un sac Intermarché. C'est la run, everyday j'ai le seum. Donc je pourrais pas freiner.
Faut qu'on vile en plus. Un petit cocktail brasier, litron gris, la vie, pas de paradis. Si je prends un kilo en plus, le poche tam canalise. Je rame dans la ville, je fais des embouteillages. Si je fais le bilan rapide, faut que je ralentisse, mais je grille tous les péages.
Les heures sont passées, je l'ai rendu folle. Les pleurs de la selle qui résonnent dans mon cône. Hier, j'ai réécouté nos vocaux pendant que j'allais chercher les bocaux. C'est mon avocat devant la peau, peau. C'est la selle qui cachait mon bédo. C'est la selle qui répare les bobos. Après, on baisse, c'est un cyclone.
Rien qu'elle connaît moi, VIE. Rien que pour elle, je peux DIE. Que je ramasse un PIB pour ériger, pas aimer deux. J'écrase le terre dans le cendrier. J'enroule un autre à Cendrillon. Et sans crier, Gargeville, je m'égare, je m'endors, je la plie, je la casse encore.
En plus, c'est mon seul calmant. Je bois la poisson, je renverse pour les morts.
Pour les morts. Poisson, en plus, c'est mon seul calmant. Je bois la poisson, je renverse pour les morts.
Faut qu'on ralentisse, ralentisse. Faut qu'on ralentisse, ralentisse. Faut qu'on ralentisse, ralentisse. Faut qu'on ralentisse, ralentisse. Faut qu'on...
Vous écoutiez Ralentir de Azam et Zedkara sur le 94 FM, un titre qu'on a découvert le 28 mars dernier lors du 808 Show, une soirée organisée par le collectif 808 Bloom en collaboration avec le Café des Champs Libres pour mettre à l'honneur la scène hip-hop et rap rennaise. Tout de suite, on retourne en plateau avec Manon pour la deuxième partie de l'interview de Lydie Pierret. La coordinatrice de l'EduLab Pasteur explique les enjeux derrière l'apprentissage et l'expérimentation du numérique.
Vous avez parlé des podcasts. Est-ce que vous avez un exemple à nous donner d'une activité concrète qui a eu lieu ou bien d'une création ?
Là, je vais prendre une activité plutôt de jeunes adultes qui s'est fait un peu de manière spontanée et qui révèle un peu vraiment le fonctionnement avec l'intérêt d'être dans un lieu comme l'Hôtel Pasteur. On avait deux jeunes hommes qui dormaient en tente et qui venaient en journée à l'Hôtel Pasteur pour se faire manger, pour se poser, pour dormir, etc. Et ils ont découvert le lieu et puis ils se sont emparés de la station de podcast et ils en ont fait vraiment un podcast au long terme. Ils sont bien restés 6 mois en venant régulièrement quand ils avaient le temps, quand ils pouvaient. On a essayé de vraiment se rendre disponible et ils ont monté un podcast sur la question de la précarité et quelque chose finalement d'assez engagé mais spontané. Voilà. Et ça, c'est vraiment une expérience, par exemple, intéressante.
Et justement, est-ce que les podcasts qui sont réalisés, c'est des podcasts qui sont retransmis de votre part ou de la part d'autres personnes ? Ou est-ce qu'après, c'est chaque personne qui décide ou non de les partager eux-mêmes ?
Alors, pour des questions de responsabilité, notamment sur ce podcast, nous, on met à disposition le matériel, mais on ne diffuse pas parce que ça voudrait dire qu'on fasse une modération ou qu'on vienne un peu bloquer peut-être l'expression des personnes. Donc, on leur laisse la responsabilité... de leur parole, alors en veillant évidemment à ce qu'on reste dans les limites légales, bien sûr. Mais en tout cas, voilà. Donc c'est pour ça qu'on ne s'engage pas à diffuser. Après, c'est vrai que des choses qui ont été montées avec des écoles, où on a l'autorisation évidemment de toutes et tous pour la diffuser, ça, on va essayer de le valoriser, ouais.
Donc on vient de parler un peu de la manière de créer et le fait de faire ensemble. Qu'est-ce que ça change vraiment, selon vous, à la manière d'apprendre le numérique et de comprendre le numérique ?
En faisant ?
Oui,
oui. En fait, le numérique, c'est vraiment, c'est pas qu'un savoir. Par exemple, un algorithme, on le comprend en fait vraiment quand on en construit, hein, quand on apprend aussi à coder, à programmer, et qu'on fait. C'est pareil pour la logique des données. Quand on commence à les donner, à les trier, etc. Pour des enfants, c'est beaucoup plus simple de comprendre. Déjà, le numérique en soi, il faut le faire, le pratiquer, et puis se servir à ce qu'on disait tout à l'heure, donc ne pas hésiter à bidouiller, tester, expérimenter. De toute façon, ça ne marche jamais comme on l'avait prévu. Donc, il faut que les personnes s'autorisent à faire, défaire, tester, faire des erreurs, etc.
Et du coup, la logique derrière le processus d'expérimentation et de création, c'est que derrière, il y a une compréhension un peu de la logique de droit à l'image, d'algorithme et tout, pour des enfants qui peuvent avoir 10 ans, par exemple.
Exactement. Ce qu'on essaye de développer plus maintenant, c'est en effet, on part de la création, parce que nous, on n'est vraiment pas sur une logique de moralisation, de stigmatisation, des pratiques, etc. Mais par exemple, quand on va faire une vidéo, en effet, On va réfléchir avec eux aussi au-delà de l'aspect technique sur c'est quoi le droit à l'image, qu'est-ce que ça implique pour les personnes qui sont dedans, pour aussi et pour eux-mêmes l'image, enfin le fait que aussi les données soient stockées et peut-être serviront à d'autres usages que ceux qu'ils avaient imaginés. Donc voilà, donc on essaye d'intégrer ça au fur et à mesure des ateliers et des pratiques. Et c'est vrai que c'est beaucoup plus simple quand tu fais une vidéo. Alors souvent, bon, les jeunes désormais veulent être influenceurs, influenceuses. Donc du coup, montrer aussi comment on fait une vidéo. C'est un super support, du coup, un super produit d'appel. Mais quand tu fais cette vidéo-là, voilà ce que ça implique, le temps que ça prend, etc. Ça permet aussi de travailler sur la question de l'information et comment circule l'information.
Et comment les parents ils prennent connaissance de l'existence de ce lieu, en fait ? Qu'est-ce qui les pousse à emmener leurs enfants ?
Alors, la plupart du temps, notre stratégie, ça a été vraiment de se dire, on passe l'info, en fait, par notamment les centres de loisirs qui viennent assez nombreux, et en disant, n'hésitez pas à revenir avec votre famille, vos proches, et du coup, ça y est, ça commence à venir. Alors, c'est vrai qu'au départ, c'était un certain type de public, mais là, on commence vraiment à diversifier les parents qui reviennent. Et c'est plutôt les enfants qui font revenir la plupart du temps. Voilà.
Et justement, pour ce qui est des adultes, est-ce que tout le monde peut venir en fait à Edula Pasteur ?
Ah oui. C'est vrai que par exemple, sur des personnes un peu plus âgées, on a moins fait ces derniers temps. Mais il y a eu des projets qui ont été portés, notamment par le FRAC qui venait il y a quelques années. Donc en effet, oui, ce serait tout à fait possible. Après, il n'y a pas eu de demande ces derniers temps, mais oui, on accepte tout le monde, au contraire. Là, par exemple, on va aussi engager un travail avec des parents du Blône, et puis avec l'idée de dire qu'eux aussi peuvent monter des choses ensemble sans leurs enfants, quitte à le faire après avec leurs enfants.
Pour ce qui est des personnes âgées, du coup, il n'y a pas encore eu de demande, si j'ai bien compris, mais est-ce que c'est une volonté d'organiser quelque chose où vous attendez qu'il y ait des demandes spécifiques pour ensuite organiser des ateliers spécifiques? Parce que c'est une question qui se pose quand même, l'usage du numérique par les personnes âgées.
Alors après, il se trouve que quand on regarde un peu les chiffres, les personnes âgées aussi, alors c'est pas vrai pour toutes, mais quand même savent très bien où trouver les médiateurs numériques autrement. Donc s'ils ont des besoins vraiment, en tout cas en termes numériques, très souvent, c'est souvent dans les ateliers numériques, par exemple, c'est eux qui sont très demandeurs, plus que les jeunes, en fait. Alors qu'intuitivement, on pourrait dire que ce n'est pas forcément qu'on a le plus besoin même. Donc déjà, il y a déjà une bonne réponse, en fait. Après, puis nous, sera plus sous l'angle de la création, etc. Donc, il faut qu'ils acceptent ça. Après, le podcast avec des personnes plus âgées, ça peut être aussi un super support. On ne cherche pas forcément à cibler là, ce public, parce que nous, comme on n'a pas de programmation, on n'a pas vraiment des besoins. Après, c'est vrai qu'après, si on regarde, c'est pour ça que c'est une bonne question, si on regarde un peu nos publics, ça pourrait être intéressant, carrément, de travailler avec eux.
Donc, ça veut dire qu'en fait, n'importe qui a une idée ou pas, d'ailleurs, peut venir à Edula Pasteur et créer en fait ce qu'il veut à partir de ce que vous avez disponible, c'est ça ?
Exactement. C'est un peu l'intérêt et la difficulté, c'est que tout est un peu possible pour nous en fonction des envies et de ce qui est sur place, de ce qui est disponible ou pas, quoi.
Et c'est possible de venir sans avoir d'idée et que l'idée vienne directement de la base ?
Exactement. En général, on fait un petit tour du lieu et on discute en fonction de leurs intérêts, etc. Et on finit toujours par trouver quelque chose qui intéresse les personnes.
Donc pour résumer tout ça, on peut dire que l'Edula Pasteur, c'est un lieu d'expérimentation et d'apprentissage qui est dédié aux usages et aux cultures numériques. Et c'est ouvert librement à toutes et à tous les mercredis et samedis de 14h à 18h30. Mais aussi sur réservation du mardi au vendredi de 9h30 à 12h30 et de 14h à 18h30. Et bien merci Lydie Pierret d'avoir répondu à mes questions sur le plateau de 3 en 1. Je le rappelle, vous êtes la coordinatrice de l'Edula Pasteur.
Merci.
Merci à vous.
À l'occasion des 48 heures de l'agriculture urbaine qui se sont déroulées les 25 et 26 avril dernier, Valentine s'est rendue à la ferme du Pré à Chantepie. Dans le premier épisode de ce mini-docu, elle a commencé à répondre à la question « L'agriculture urbaine peut-elle nourrir les villes ?» Accompagnée d'Hélène Berthe, fondatrice de l'association Les Colverts Rennes, elle poursuit la réflexion autour, cette fois-ci, des enjeux de l'agriculture en ville.
En bordure du périphérique rennais, une exploitation maraîchère pas comme les autres, retour à la ferme du Pré. Nous retrouvons Hélène Brett dans ce second épisode autour des enjeux de l'agriculture urbaine.
Nous, on a la capacité d'accueillir par exemple des jeunes ou des moins jeunes qui viennent faire un stage de découverte. Des gens qui n'arrivent pas à l'heure, qui ne te regardent pas dans les yeux, qui finalement ils viennent pas le mardi matin alors qu'ils devaient venir. Moi, je viens j'ai une partie de ma famille qui vient des Landes et qui est dans l'agriculture. Bon ben voilà, mon grand-tonton Roger, il aurait jamais accueilli Dylan qui arrive avec 2h30 de retard. Voilà. Nous, oui. Et en fait, ça peut faire naître des vocations. En tout cas, ça peut permettre à des personnes de se former, d'être vraiment, de mettre les mains dans la terre, de comprendre qu'avec le contact de la nature et de l'alimentation, il y a besoin de gens qui vont travailler dans ce domaine-là. Ça, c'est un premier enjeu.
Environ 150 bénévoles par an passent par l'école Vert Rennes. 8 services civiques sont aussi accueillis, une formation qui peut être un vrai tremplin vers une professionnalisation, enjeu majeur du secteur agricole quand on sait que plus de la moitié des fermes françaises ont disparu depuis la fin des années 80.
Je m'appelle Gaspard Delus et je suis en service civique actuellement au Col Vert, sur le Pré, donc je fais du maraîchage. J'étais très content d'atterrir ici. Le vrai changement que je ressentais par rapport aux autres métiers, c'était justement le milieu associatif. Ça fait plaisir d'arriver dans un cadre où t'as l'impression qu'on te met un peu plus au centre de l'action, on t'essaye de t'expliquer absolument toutes les branches. Je me sens beaucoup plus vite à ma place, tu vois. Un truc comme ça, tu te sens utile. Les gens sont sympas, quoi.
Un enjeu de formation, mais aussi de sensibilisation et d'information des publics. Chaque année, l'association L'École Vert sensibilise près de 7000 personnes, dont 42% des moins de 25 ans, notamment sur le thème du mieux manger.
Pour que les gens comprennent un peu mieux ce qu'ils mettent dans leur panier et dans leur assiette. Tu vois, on a... Nous, sur les dispositifs, par exemple, avant, on faisait des paniers solidaires. Donc, c'était des paniers de légumes de saison, locaux, toutes les semaines, avec des ateliers cuisine. On a 85% des personnes qui ont adhéré à ce dispositif qui affirment avoir justement consommé moins de produits transformés, plus de produits bruts. On a une personne sur trois qui a changé durablement ses habitudes alimentaires. On a, pareil, plus de 80% qui savent faire la différence entre un produit bio et un produit non bio.
Une reconnexion parfois nécessaire entre les habitants et la terre qui nous nourrit.
Bonjour, alors moi je m'appelle Michel et donc je suis bénévole au Col Vert depuis une année. Pourquoi je viens au Col Vert? C'est parce que je suis retraitée, nouvellement retraitée, et donc je voulais faire du bénévolat. L'autre raison, c'est aussi parce que je suis une famille de paysans et puis je n'ai pas su apprendre au bon moment les choses qui sont maintenant de plus en plus importantes.
Créatrice de liens et lieux de transmission, la ferme est aussi un terrain d'expérimentation pour des pratiques agroécologiques. Rotation des cultures pour éviter l'épuisement des sols, densification des haies, maintien de la biodiversité. Si l'agriculture urbaine n'a pas pour vocation de nous nourrir en masse, elle peut influencer positivement les méthodes agricoles classiques.
Nous, on fait partie par exemple de Paysans de Nature, qui est un collectif d'agricultrices et agriculteurs en partenariat avec la LPO, avec AgroBio 35. Et on fait ce qu'on appelle des DPN, c'est des dialogues permanents de nature qui permettent à donc un petit groupe de passer de ferme en ferme et de faire à la fois des inventaires, des recommandations. Nous par exemple, voilà, les bandes fleuries, le fait d'avoir une mare sur une certaine zone de la ferme, c'est de venir avoir une appréciation de son environnement. L'agriculture urbaine, je crois que c'est une réponse un peu transversale aux enjeux de société. Actuelle, ça vient en complémentarité de l'agriculture rurale. Comme je disais, on est vraiment une porte d'entrée. Mais c'est, je dirais, ouais, presque une bulle de nature qui est accueillante, vivante et qui voit surtout passer un public très différent tout au long de l'année. Et ça, c'est une vraie fierté.
Si l'agriculture urbaine n'a pas vocation à nourrir toute la ville, elle nourrit autre chose d'essentiel, le lien entre les gens, entre les lieux urbains comme le...
Merci Valentine pour ce reportage. 3 en 1, c'est fini pour aujourd'hui. Merci à Lydie Pierret, coordinatrice de l'Edulab Pasteur, d'avoir répondu à nos questions. Merci à l'équipe de la Ferme du Pré et merci à toute l'équipe de 3 en 1 pour la réalisation de cette émission. Nina, Manon et Valentine, tous les podcasts de 3 en 1 sont à retrouver sur notre site canalb.fr et à réécouter les lendemains en rediffusion sur le 94 FM à 8h15.